Il est 4h et c'est la radio Autrement qui vous accompagne dans la nuit Autrement jusqu'à 5h. Bienvenue ce mardi 26 mai. Je vous souhaite un bon réveil et je vous souhaite une excellente journée.
La Bible dit:
une conduite honnête rend libre les gens droits, mais les gens faux sont pris au piège de leurs désirs.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
Vous êtes une équipe et une radio avec tellement de joie, tellement de positivité, tellement de vérité.
C'est une radio réconfortante que pharefm.
C'est toujours un plaisir de vous entendre. J'écoute beaucoup dans ma voiture, j'éclate de rire parce que vous faites rire.
C'est une radio qui m'apporte quelque chose.
Je suis vraiment encouragée par les chants que vous diffusez, mais aussi les témoignages de vie de certaines personnes.
Cette radio est un phare pour notre pays. C'est pour ça que je la soutiens régulièrement depuis des années et que je continuerai à le faire tant que je pourrai.
C'est ma contribution par rapport à tout ce que vous mettez en place et bravo pour toutes ces évolutions et ce dynamisme.
Ça vaut le coup. Et si nous on bénéficie de ça aujourd'hui, c'est qu'il y en a d'autres qui ont fait le kilomètre supplémentaire pour que nous on en bénéficie. Donc maintenant c'est à nous de donner le relais.
Phare FM, c'est votre radio et c'est vous qui la financez. Faire venir Phare FM jusqu'à vos oreilles coûte 3 000 € chaque jour. Donnez maintenant sur pharefm.com/don. pharefm.com/don.
Sinking down, trying to keep my head above. I've been reaching out, I can't find a better love than you. And I smile, cause every word that you say tends to stick to my brain. And that's cool, that's cool.
All the lies I tell myself don't mean a thing when I think about you. Every doubt, every fear is turned away when I think about you. Every day a chance to dream again when I think about you. All our space and the one thing that remains, I think about you.
Find myself in the middle of a swell in the belly of the whale. I pray no matter how I feel, got a bug on my belt, keep telling myself it's okay. When life gets hard, can't let it break my heart, cause I can face all the parts in the dark.
Myself don't mean a thing when I think about you. Every doubt, every fear is turned away when I think about you. Every day there's a chance to dream again when I think about you. All else fades and the one thing that remains, I think about you.
Now I'm thinking, now I'm thinking.
In your direction, in a world full of depression, you are always the exception. Just the thought of you in solitude is all it takes for the sun to shine through. The hardest days that come with pain can never change what you have made true. Sunsets, long nights, I'm trying to catch fireflies. I'm barefoot running wild. Oh, what a beautiful life.
All the lies I told myself don't mean a thing when I think about you. Every doubt, every fear is turned away when I think about you. Every day there's a chance to dream again when I think about you.
wise and the young. Show me the place where your words come from. Love's a language, love's your native tongue. Feel your heartbeat, bang the drum. Open up your eyes and fill your lungs. The same word from where the stars are flung. Love's a language, love's your native.
Native Tongue, Switchfoot sur Phare FM, la radio autrement qui vous accompagne, la nuit autrement avec vous encore jusqu'à 5h. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un très très bon réveil, je vous souhaite une excellente journée, un très bon mardi. Merci de vous réveiller avec Phare FM. Au programme dans la prochaine heure, Pain de vie avec Samuel Peter Schmidt. Le thème sera comment vivre heureux. Et puis, hommes et femmes, mode d'emploi. Et de la musique. Tout de suite, c'est Francis Mercier avec Magic System et Shoki et la chanson Magic in the Air. À tout à l'heure.
Minuit 5h.
La nuit autrement.
Avec Mireille.
c'est pas seulement pour les bobos. Oh, ouais, oh. Nous on vient d'à nous mambo. Ah. Mon ami, si tu as le niveau, oh, ouais, oh. Rejoins-nous pour t'enjailler.
On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie.
On t'invite à la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, oh.
I'm maintenant votre message pain de vie avec le pasteur Samuel Peter Schmidt.
Nous voulons absolument tous vivre heureux. Alors, je sais que le bonheur et je sais qu'être heureux eh bien, demande différents ingrédients et est bien plus complexe que résumer simplement à deux points. Cependant, je voudrais quand même vous donner deux indications essentielles que nous donne la parole de Dieu qui vous permettent de vivre réellement une vie heureuse. Que dit Jésus au sujet de ses brebis ? Il dira, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le but du Seigneur, c'est que tu aies la vie, mais également que tu sois, eh bien, dans l'abondance. Lorsque David lui-même parlera de l'Éternel en tant que berger, il pourra dire, je ne manque de rien. Une vie satisfaite, une vie satisfaisante. Est-ce que c'est pas beau lorsque vous voyez des brebis qui paissent tranquillement dans la prairie, qui sont couchées ensemble, qui manifestement sont en sécurité parce que le berger est là? Moi je trouve ça beau lorsque je vois ces images-là. Je m'arrête, je regarde. C'est paisible. Mes amis, nous aspirons, nous le désirons, c'est sûr, c'est certain. Je sais que je ne peux pas me tromper. Et pourtant, je me rends compte que tant de croyants, tant de chrétiens connaissent Dieu, connaissent la source par excellence du bonheur, connaissent celui qui rend heureux et vivent insatisfaits. L'apôtre Paul nous donne deux indications. Et c'est sur ces deux indications que je voudrais m'arrêter dans 1 Timothée 6, verset 6. C'est en effet, dira l'apôtre Paul, une grande source de gain que la piété avec le contentement. En d'autres termes, c'est une grande richesse que la piété et le contentement. Et je voudrais m'arrêter sur ces deux termes. Tout d'abord, et c'est mon premier point, la piété. C'est un mot que nous n'employons pas souvent. Et en fait, il a très souvent une connotation pas forcément objective, mais plutôt d'austérité. Alors, qu'est-ce que la piété ? La piété se traduit par la vénération, c'est-à-dire le respect voué aux choses sacrées. Elle est faite d'affection et de respect envers Dieu. On parle d'ailleurs même de piété filiale. Quand il s'agit de parents, c'est-à-dire d'un attachement, d'une tendresse et de respect des enfants pour leurs parents. Le mot piété renferme cet élan du cœur, ce don de soi. Ce n'est pas une religion mécanique dans laquelle il faut prier, il faut lire la Bible. Lorsqu'un homme, une femme est pieux ou pieuse, il a une relation qui repose sur la tendresse qu'il a pour Dieu. Il est heureux d'être avec Dieu. Il se réjouit d'être avec Dieu. Je vous le disais, piété, eh bien, est souvent confondu avec austérité, légalisme. Être pieux, ce n'est pas être austère. Pour certains, être spirituel, c'est plus t'as un air triste, plus t'es spirituel. Ils te tirent des têtes, faut presque faire attention que tu leur marches pas dessus quand tu les croises. On n'a pas le droit de rire avec eux. Jeudi, nous avions une pastorale à 1h30. On était à 7 pasteurs dans la voiture. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Pourtant, ils sont tous pieux, j'en suis sûr. Mais on s'est pas ennuyé. On a ri. L'austérité te conduit à laisser croire que tu n'as plus le droit de te réjouir. Dès que tu te réjouis, peut-être que tu es coupable de quelque chose. Certains te disent, tu peux plus écouter de musique, tu peux plus ceci, tu peux plus cela. En fait, à la fin, tu te dis, mais tu peux plus vivre. Mon exemple, bien sûr, c'est le Seigneur dans la parole, mais mon exemple vivant, c'est mon Père. Mais quand vous êtes avec lui, vous avez envie de vivre. Cet homme-là, il est pieux, mais il est heureux de vivre. Il se réjouit de la vie. Il profite de la vie. Non, on a donné une image de la piété qui est totalement opposée à ce que Dieu veut. La piété te mène dans une relation dans laquelle tu as de la joie à être dans la présence de Dieu. T'es content d'être chrétien, mais t'es content de vivre aussi. T'es content d'écouter de la musique, t'es content de te réjouir. Certains m'ont dit, oui, mais mes frères, le message de l'évangile est tellement grave. Oui, il est grave. Oui, si un homme ne reçoit pas Christ, il est perdu. Oui, le message est grave. Mais c'est pas en étant triste et austère que tu amènes celui qui ne le connaît pas à s'approcher de Jésus. Il faut que celui qui ne connaisse pas Jésus voit que toi, tu as quelque chose de plus que lui. Dans cette relation vivante, l'apôtre Paul nous invite à la piété. Il est dit dans 1 Timothée, mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. Recherche la droiture, l'attachement à Dieu, c'est-à-dire la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Dans Hébreux 12, il nous est dit que nous devons rendre un culte qui lui est agréable. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Avec piété, c'est-à-dire respect, tendresse, élan du cœur. Il y a de la tendresse dans la relation avec Dieu. On a le droit d'éprouver de l'émotion à l'égard du Seigneur. On a le droit de se réjouir en lui. Frères et sœurs, la piété est remplie d'émotions, est remplie d'affection, est remplie de sentiments. Ce n'est pas une austérité froide. T'as certains chrétiens, tu te demandes s'ils savent encore ce que c'est simplement montrer de l'affection. Mon frère, ma sœur, l'apôtre Paul nous rappelle que les hommes pieux sont des hommes qui sont bénis, qui sont sous la protection de Dieu. Dans le psaume 32, il nous est dit « Qu'ainsi tout homme pieux te prie, au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Parce que Dieu se réjouit avec ce genre d'homme. J'en parlais l'autre jour avec quelqu'un, je disais « Mais tu sais, quand je rentre dans ma chambre pour prier, mais passer trois quarts d'heure, une heure dans la présence de Dieu, c'est pas difficile. Je me réjouis, je vais rencontrer celui que je sers de tout mon cœur. Et là, je lui parle, et là, je prie, je ris ou je pleure, ça dépend. Ce n'est pas une obligation, c'est pas maintenant, maintenant il faut que j'aille prier. Non, c'est une joie d'être en relation avec Dieu. C'est une joie de lire sa parole. Mon frère, ma sœur, une relation simple. Une relation vraie, une relation profonde. Non pas faite de « t'as pas le droit, il faut » et tout ce qui t'as pas le droit, tu vas pas le faire parce que tu aimes le Seigneur. Tu es libéré. Et c'est ça ce qui m'a toujours encouragé chez le papa Jean. C'est un homme libre, un homme heureux de vivre. S'il voit quelque chose qui le fait rire, il va rire de bon cœur. Et il va pas se sentir coupable parce qu'il s'est réjoui. Comment se caractérisent les hommes pieux? Dans 1 Jean 3, verset 9, eh bien, il se caractérise par le refus du péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. L'homme, la femme qui vit pieusement, eh bien, n'a pas envie de pécher. Il aime le Seigneur. Son amour pour le Seigneur est tel que le péché n'a plus d'emprise sur lui. Mais plus tu vis ta relation avec Dieu comme une obligation, des règles mécaniques, une observation de la loi sévère et stricte, plus le péché a d'emprise sur toi. Plus tu es heureux, plus tu vis dans une relation libre avec Dieu, dans la joie et la paix, plus tu as la capacité de résister. L'homme pieux, la femme pieuse aiment les commandements de Dieu. Dans Jean 14, il est dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Il garde ses commandements. Quand tu as une relation qui est basée sur l'amour, alors tu aimes respecter celui que tu aimes. Ce n'est pas difficile. Vous savez, on raconte l'histoire suivante. C'était une femme qui était mariée. Et puis, le mari était très sévère, très strict. Et c'était que des obligations. Et tu fais ceci, et tu fais cela. Et elle a été jusqu'à lui faire une liste de 40 points. Elle s'efforçait de respecter la liste. Mais cette dureté l'avait privée d'amour. Alors, elle faisait des efforts, mais elle n'y arrivait jamais. Et un jour, malheureusement, le mari trépassa. Et puis, quelque temps après, elle rencontre quelqu'un d'autre et elle en tombe profondément amoureuse. Elle l'aime de tout son cœur. Elle a une communion avec lui. Ils se marient et puis, après des années de mariage, elle ouvre un tiroir et elle retombe sur les 40 points que son premier mari avait fixés. Et là, elle les relit, elle se met à pleurer. Parce que soudain, elle réalise qu'avec le second qu'elle aimait tellement facilement, elle venait de respecter tous les points sans jamais qu'il les exige. C'est ça ta relation avec Dieu. Chaque point, elle l'avait respecté, sans qu'il lui soit exigé, parce que l'amour était le moteur. Celui qui m'aime, il garde mes commandements. C'est pas difficile de la lire, la Bible. Au contraire, ça t'encourage, ça te fait du bien, elle te nourrit, elle t'exhorte, elle te reprend, elle te parle. Mes amis, j'aimerais vous dire, waouh, c'est beau d'être chrétien, c'est beau de connaître Dieu, c'est beau d'être pieux. Il se caractérise par son amour du prochain. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, 1 Jean 4, 7, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Il aime les autres. Pourquoi ? Parce que l'amour de Dieu habite en lui. Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu » si tu n'aimes pas ton prochain. La piété se manifeste par l'amour. La piété, c'est une question de relation avec Dieu, mais automatiquement avec les autres. Tu te réjouis. Je le prends pour exemple parce que je le fréquente depuis des années. Mais le papa Jean, je sais qu'il aime les gens. Quand il les voit, oh, et je t'assure que c'est vrai. Moi, j'ai eu un homme qui est venu me voir. Il me dit, vous savez, la première fois que je suis venu dans votre église, j'étais venu, je me disais, ça, c'est une secte. Je sortais des toilettes et j'ai rencontré un monsieur avec des cheveux blancs. Il m'a vu et il m'a dit, bonjour frère, alléluia. Le type, il a fondu. Il a dit, c'est la première fois que quelqu'un me manifestait vraiment de l'affection et de l'amour. Aimer les autres, mais simplement, sans chichi, être vrai, juste être toi. Il y a dans l'Écriture des exemples d'hommes pieux. Corneille, par exemple, acte 10, verset 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Et regardez, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, c'est-à-dire des dons, il soutenait les pauvres, priait Dieu continuellement. Prier constamment, c'est où que tu sois, tu loues le Seigneur, tu te réjouis, tu vois quelque chose de beau, alléluia. Mais si nous apprenons à bénir, à aimer, en nous changeant, nous avions déjà affaire à des personnes qui nous ont fait des coups tordus. Et mon père me dit, et moi je disais, maintenant, ça suffit. Il arrivait, yo Sami, si tu les aimes, ils changent. Et j'ai dû constater qu'il a raison. Mais regardez ce qui est intéressant avec Corneille. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » La piété de Corneille va se manifester par la qualité de sa vie. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez l'air pieux que vous l'êtes. Votre piété va se manifester par votre qualité de vie journalière. Un homme pieux est pieux, mais cela se manifeste chaque jour dans son attitude, son comportement, dans son amour pour le Seigneur, dans sa joie de le rencontrer, dans sa joie de lire sa parole, dans sa joie de respecter ses commandements, dans sa joie d'aimer son prochain, dans sa joie d'aider son prochain. Ces hommes-là, ils n'ont pas besoin de faire de grands discours, mais Dieu se révèle à eux. La Bible ne nous dit pas que Corneille, à un seul moment, ait rencontré un jour Jésus, non ? Elle ne nous dit pas non plus qu'il ait rencontré un des apôtres. Il ne connaissait en fait pas encore les apôtres. Il ne connaissait pas encore ces choses. Mais il avait déjà un cœur qui aimait Dieu. Des hommes et des femmes comme ça, avant même qu'ils ne le rencontrent, ils se manifestent à eux. Ils les cherchent. Et là, ils se révèlent. Et ils lui parlent. Et ils lui envoient un serviteur. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir Dieu intervenir. Certains me disent, tu sais frère, je prie pour que je voie des anges. Ben sois pieux. Vis dans la piété. Et un jour, Dieu peut-être le permettra. Ce qui est important, c'est que tu vives dans cette profonde relation. Un autre homme pieux duquel il est parlé, c'est Siméon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon, Luc 2, 25. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il va au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Béni Dieu, dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Là se trouvent des hommes pieux et des femmes pieuses, se trouve le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu conduit les hommes et les femmes qui vivent dans la piété. Je vais vous le dire, il n'y a rien de plus beau que de devenir un homme et une femme pieux et pieuse. Aspirez-y. L'apôtre Paul vous y invite. Il dit, mais cherchez-le. Ne vous contentez pas d'avoir une religion. Un homme qui vit heureux avec Dieu. Un homme qui voit Dieu le diriger. Une femme qui voit Dieu le diriger. Frères et sœurs, Ce n'est pas du légalisme. C'est un échange vivant avec le Seigneur. C'est un privilège. Là, tu le vis comme un privilège. Alors, j'aimerais peut-être terminer ce point-là en disant attention à l'apparence de la piété. Parce qu'il y a les hommes et les femmes pieux et pieuses, et puis il y a l'apparence de la piété. Ça y ressemble, mais ce n'est pas la piété. D'ailleurs, l'apôtre Paul dira que et l'Écriture nous dit que l'apostasie viendra. Qu'est-ce que ça veut dire, l'apostasie? Simplement, c'est l'action de s'éloigner, désertion, défection. Et ce mot est employé plusieurs fois lorsqu'il y a abandon de la foi. Mais il est question de défection par rapport à la foi, de désertion par la foi. On donne l'apparence de la piété. On fait très religieux, on nous regarde, on fait très spirituel. Aujourd'hui, on ne parle plus de piété, on dit « il est spirituel ». Mais ça ressemble à la spiritualité, mais ce n'est pas de la spiritualité. Ça ressemble à de la piété, mais ce n'est plus de la piété. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul dans 2 Timothée 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. J'écourte la liste. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est ta relation personnelle avec Dieu. C'est ça ce qui fait la force de la piété. Tout le reste, c'est du cinéma. Et mes amis, je crois que même dans cette église, il y a des gens qui font du cinéma. Ils n'ont plus que l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. À quoi puis-je le dire? Écoutez ce que Paul dit à Tite. Il dira au chapitre 1, verset 16, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils le renient, leurs œuvres démontrent ce qu'ils sont en réalité. » Quand je vois des chrétiens qui n'aiment pas leur prochain, manifestement, ils n'ont jamais le temps, ils n'ont jamais ceci, jamais cela, n'ouvrent jamais leur maison, ne reçoivent jamais. Quand je vois des chrétiens qui ne prient pas, ils me disent « moi, je n'ai pas besoin de prier, je me sens bien comme ça ». Quand je vois des croyants qui n'ont pas besoin de la parole de Dieu, je me dis, ils n'ont plus que l'apparence de la piété. Oh, ils vont venir le dimanche matin, ils vont lever les bras. C'est l'apparence, c'est du religieux. Mais il n'y a plus le fond, il n'y a pas la relation avec Dieu, il n'y a pas l'amour de Dieu, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a rien de tout ça. À l'intérieur même de leur famille, ils peuvent être terribles. Quand vous les regardez vivre et vous lisez la Bible, vous dites, c'est pas la même chose. Il y a un décalage. Sa vie me dit autre chose que ce que dit la Bible. Au contraire, ces gens-là marchent même en ennemis de la croix. C'est-à-dire qu'ils se prétendent chrétiens, mais ils éloignent des hommes et des femmes de la croix. Pourquoi? Parce que quand on les voit vivre, on se dit, mais si ça c'est des chrétiens, moi je ne veux jamais le devenir. Et mes amis, c'est dans tous les milieux que des hommes et des femmes tout d'un coup peuvent perdre cette relation avec Dieu et n'avoir plus que l'apparence. La meilleure chose, c'est observons-nous, regardons nos œuvres et nous saurons où nous en sommes. Vous savez, l'homme qui veut vivre vraiment pieusement, il sait que tôt ou tard, et c'est ce que Paul dit à Timothée, tôt ou tard, il sera persécuté. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y a un moment donné où quand tu as une vraie relation avec Dieu, tous ceux qui ne l'ont pas, eh bien, tu les irrites, tu les agaces. Je ne te parle même pas des non-croyants, parce que tu deviens pour eux un signe, parce que pour eux, à quelque part, tu interpelles leur conscience. Tu les gênes. Un homme réellement pieux, une femme réellement pieuse, mais mal à l'aise ceux qui ont l'apparence de la piété et qui en ont renié la force. Il est rien que pour la société un jugement, parce qu'il a des valeurs que la société n'a pas. Des valeurs qu'il vit, des valeurs qu'il transmet, des valeurs qu'il dit. L'autre jour, j'écoutais la chronique d'un journaliste. Il commentait les 30 ans de la loi sur l'avortement. Et voilà ce qu'il dit, c'est M. Zemmour sur RTL. Il dit 30 ans déjà que officiellement l'on peut avorter. 30 ans, c'est en France 7 millions d'enfants qui ne sont pas. Et il disait, si ces 7 millions d'enfants étaient là, eh bien la richesse du pays aurait augmenté, l'industrie aurait dû fonctionner bien plus encore parce qu'il faut les habiller, il faut les nourrir, etc. Alors quand un pasteur dans une église en parle, ça énerve. Nous avons des valeurs que le monde n'a pas. La société subit aujourd'hui les conséquences de ses inconséquences, voire de ses crimes. Deuxième point. L'apôtre Paul dit, c'est une grande source de richesse que la piété. La deuxième chose, c'est le contentement. Être content. J'ai pris le dictionnaire Hachette juste pour regarder rapidement ce qu'il disait. Et il dit « content, dont le cœur et l'esprit sont satisfait. C'est un mot qu'on n'emploie pas souvent, hein? Le contentement, c'est quand vous savez que Dieu a pourvu à tous vos besoins. Et la conséquence, c'est une libération de tous ces désirs inutiles. Paul exprime cet état dans Philippiens 4. Il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi ? Parce que ton contentement intérieur, ta satisfaction intérieure ne vient plus de tout ce que tu possèdes, mais de tout ce que tu as en Dieu. Et là, tout d'un coup, que tu aies beaucoup ou peu, tu peux être content parce que tu n'es plus attaché à ce que tu n'as pas. Alors c'est joli à dire comme ça. Mais je me rends quand même compte que dans les églises et dans l'église, eh bien beaucoup de chrétiens vivent malheureux parce qu'ils voudraient toujours ce qu'ils n'ont pas. Ils sont insatisfaits. Ils sont mécontents. Le fait de ne jamais être satisfait nous mène au péché. L'insatisfaction crée en nous des désirs et la convoitise. Dès la Genèse, attendez, ça ne pouvait pas être plus parfait que c'était. Dieu était là. Adam et Ève étaient dans le lieu le plus merveilleux qui existe. C'était paradisiaque. En plus de ça, ils étaient seuls les deux. Rien de tout ça. C'était beau. Et là, le diable vient et va créer un besoin où il n'y en a pas. C'est ça l'insatisfaction. Le diable crée un besoin là où il n'y en a pas. Il dit, oui, mais c'est bien, vous avez le droit de manger de tous les arbres. Mais celui-là, si tu mangeais de celui-là, tu deviendrais comme lui, comme Dieu. C'est pour ça qu'il t'a dit, tu peux manger tout, sauf pas de ça. Déjà né, la convoitise. Déjà né, l'insatisfaction. Du coup, Ève n'est plus satisfaite de son statut. Il lui faut autre chose, il lui faut plus que ce qu'elle ne possède. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malheureux à cause de leur incapacité d'être contents. Paul dit, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. » Frères, sœurs, soyons honnêtes, toute notre société fonctionne là-dessus. Le monde dans lequel nous vivons, la société crée des besoins qui n'existent pas forcément. Parfois, ils existent, mais pas forcément pour vous pousser, pour me pousser à la consommation. On crée des besoins qui n'existent pas. Alors, jusque-là, on pourrait en sourire. Le problème, c'est que ça se gâte, et je vais vous dire où ça se gâte. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de familles, de couples ne vivent plus heureux et heureuses parce qu'ils ont tellement de dettes, parce qu'ils se sont endettés à un niveau tel pour avoir toujours plus et mieux. Et c'est là que j'aimerais m'arrêter avec vous pendant un instant. Combien de fois aurions-nous pu finalement construire une maison simple dans laquelle on aurait pu être heureux, mais parce qu'on voulait qu'elle soit grande, parce qu'on voulait ceci, cela. Vous courez du matin au soir, mari et femme, pour arriver à rembourser. Des tensions naissent dans vos couples, vos enfants ne vous voient plus. Ça sert à quoi une maison dans laquelle il n'y a plus d'âme? Ça sert à quoi une maison dans laquelle on se dispute constamment? Ça sert à quoi quand des huissiers vous envoient des lettres? J'arrive parfois dans des familles qui n'ont pas grand-chose, mais alors c'est le dernier téléviseur, c'est le dernier téléphone, c'est le dernier tout ce que tu veux. Et ils ne sont pas heureux, ils sont sous pression. Pire, écoutez-moi et suivez-moi. Je crois que l'argent des chrétiens se trouve dans une économie qui est celle du monde au lieu de se trouver dans celle de Dieu. Parce que les croyants ne sont jamais satisfaits. Tout ce qu'ils ont, tout ce que Dieu leur a donné, toute la bénédiction, ils l'utilisent toujours, le dépensent toujours pour des choses qui disparaîtront, vous n'emporterez rien. Et pour le royaume de Dieu, il n'y a que les restes. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, il n'y a que les restes. Parce que notre insatisfaction nous a piégés et amenés finalement à tout investir dans une économie qui n'est pas celle de Dieu, mais celle de l'ennemi de nos âmes. Réfléchissez, combien de bien nous aurions pu faire, je m'inclus, combien de bien nous aurions pu faire si nous avions accepté d'être contents avec ce que nous avons. Simplement contents. Quand j'ai beaucoup, je loue Dieu. Quand j'ai moins, je loue Dieu. Parce que finalement, la satisfaction se trouve dans ce qu'il est, lui, pour moi. C'est lui ma joie, c'est lui ma force. Je ne voudrais pas que vous soyez privés de tout ce que vous pourriez faire. Tout simplement parce que, comme chez Ève, à nouveau, nous nous faisons piéger. Deuxième chose que je voudrais dire, et je terminerai, le temps est passé. Mais si on retenait déjà rien que ça, vous savez, l'insatisfaction engendre la rivalité. Nous disons que nous sommes chrétiens, nous disons que Dieu est au ciel et qu'il fait ce qu'il veut. On est d'accord ensemble? Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Est-ce que nous l'acceptons? Très souvent, parce que nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, nous envions l'autre. Et là, encore une fois, nous nous faisons piéger. Soyons heureux de ce que nous sommes. Mesdames, s'il vous a fait femme, soyez heureuses. Est-ce que vous avez déjà pu dire, Seigneur, je te remercie de ce que tu as fait de moi une femme? Parce qu'aujourd'hui, on est plus content d'être ce qu'on est. Aujourd'hui, les femmes veulent devenir des hommes et les hommes veulent devenir des femmes. Mais quand tous les hommes seront des femmes et toutes les femmes des hommes, on sera de nouveau au point zéro. Heureux de ce que je suis, satisfait de ce que Dieu a fait. Regardez dans sa souveraineté, Dieu choisit de donner un talent à l'un, deux à l'autre et cinq à un troisième. C'est son droit. Pourquoi est-ce que celui qui a que deux talents devrait commencer à être insatisfait, rentrer en rivalité avec celui qui en a cinq? Pourquoi? Commence à louer Dieu, à dire, Seigneur, je te remercie pour les deux talents que tu m'as donnés et je vais les multiplier, je vais en faire quatre. Seigneur, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse comme je suis. Arrête d'être insatisfait. Les petits, ils veulent être grands, ils achètent des grandes chaussures pour être plus grands. Les grands, ils veulent être petits, alors ils achètent des petites chaussures plates pour être plus petits. Les blondes veulent être brunes, les brunes veulent être blondes. Nous nous usons, nous nous fatiguons et nous passons du temps à des choses inutiles. Tout ce que nous pourrions consacrer au Seigneur, eh bien, part dans des choses inutiles. De surcroît, vous savez, la rivalité, eh bien, elle peut être destructrice. Dans Jacques 3, 16, il dit, là où il y a de la jalousie et de la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. En d'autres mots, il n'y a pas de paix réelle tant que nous ne sommes pas contents avec ce que Dieu a fait de nous. Nous jalousons ceux qui ont des dons différents des nôtres. Nous avons peur de leur influence, nous avons peur qu'ils nous fassent de l'ombre. Et soudain, nous commençons à fonctionner non plus en fonction de ce que Dieu veut, mais en rapport avec ce que l'autre est. Soudain, ça commence à nous ronger. La Bible dit que l'orgueil est comme la carie des os. C'est comme un cancer dans les os. Ça te ronge intérieurement. Secrètement, tu es en compétition, tu ne vas pas le dire. Tiens, Dieu t'a donné une belle voix. Et cela fait des mois que tu entends dire « Ah, mais tu as une belle voix ». Soudain arrive quelqu'un d'autre qui a ou une aussi belle voix ou une voix encore plus belle. Et puis là, tu commences à être inquiet. Au lieu de te dire « Oh Seigneur, merci pour la belle voix qu'il ou qu'elle a. Merci parce que grâce à lui et à elle, eh bien, le peuple de Dieu est encore plus réjoui en ta présence. » Rivalité, peur, jalousie. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas contents de ce que Dieu nous donne et parce que nous ne réalisons pas quand notre temps est passé. Moi, je me dis, au bout de 40 ans, le pianiste devrait dire, j'ai fait mon temps, j'étais heureux de servir le Seigneur le temps qu'il fallait, maintenant, place aux autres. Et qu'un autre, un meilleur que moi, vienne et continue. C'est comme ça que ça devrait marcher. Les uns devraient encourager les autres. Chacun devrait être content de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce que Dieu a voulu de lui. Mon frère, ma sœur, Paul dira, ne faites rien par rivalité, par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Jéroboam, et je termine par cet exemple. Jéroboam avait reçu de la part de Dieu l'autorité sur 10 tribus d'Israël. Et Dieu lui avait dit, pour toi et tes descendants, je te le donne. Vous lirez ça, vous pourrez le lire à la maison, 1 Roi 12, je ne vais pas le lire maintenant. Mais il lui dira, je laisse 2 tribus à Roboam, parce que j'avais promis à David qu'il y aurait toujours un descendant sur le trône. Cependant, il n'avait aucune inquiétude à avoir. Dieu l'avait placé sur 10 tribus. Que s'est-il passé? Le peuple allait régulièrement adorer à Jérusalem, là où se trouvait l'autre roi. Jéroboam va commencer à avoir peur, va commencer à sentir une rivalité. Et il dira, le royaume pourrait bien retourner à la maison de David si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Il avait oublié que celui qu'il avait établi, c'était Dieu. Et que fit-il? Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or. Il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il leur a fait un veau d'or. Il leur a fait un faux dieu pour qu'ils ne montent plus à Jérusalem. Lorsqu'il y a de la rivalité, tu sors de la volonté de Dieu. Et tu commences à faire des choses non plus en fonction de ce que Dieu te demande, mais en fonction de ce que les autres font. Tu vas essayer de faire mieux que l'autre, non pas parce que tu aimes plus le Seigneur, mais parce que tu es jaloux de l'autre. Cela vient d'où? Cela vient simplement du fait que tu ne sais pas être content avec ce que Dieu a fait de toi. La piété et le contentement, c'est une grande source de gain. Vous ne pouvez pas savoir ce que le contentement vous fait économiser. Vous ne pouvez pas savoir ce que le contentement vous évite. Des situations pénibles et difficiles dans lesquelles peut-être certains pleurent en se disant « si j'avais su, j'aurais pas investi autant. Si j'avais su, je n'aurais pas fait les dettes que j'ai fait. Si j'avais su, je me serais pas laissé prendre autant que je me suis laissé prendre. » Apprenons à vivre pieux et content. N'est pas l'apparence de la piété, mais est ce qui en fait la force. Fermons nos yeux un instant ensemble.
Ce message a été enregistré à l'église de la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Pour le réécouter et le commander, rendez-vous sur philadelphie.com.
I was just thinking, did I turn out to be who I wanted to be when I was dreaming? Back when I was 16, back when I met Jesus, how it felt in my heart to know that God was love and how it really sees us. I still believe it. Just because I'm a believer doesn't mean I don't forget that my heart is a deceiver. There's doubts in my head, but I believe. I could break it all and he'd make it all new. That's the gospel truth. That's the gospel truth. I was just thinking, sitting in the backyard, watching my two little girls swinging. Hope I'm a good dad, God knows that I'm not perfect. But I'm keeping my eyes on the one who is, even though I hurt him. He still calls me friend. Just because I'm a believer doesn't mean I don't forget that my heart is a deceiver. There's doubts in my head, but I belong to a redeemer who's not finished with me yet. I could break it all and he'd make it all new. That's the gospel truth.
Thank God, thank God, thank God.
That's the gospel truth.
Thank God, thank God, thank God. Did I turn out to be who I wanted to be when I was dreaming? Back when I was 16. Yeah, I may be a believer, that doesn't mean I don't mess up. Cause his heart's in my witness, but he's still filling my cup. For him, I wish I could be better, but he says that I'm enough. It's done, and there's nothing I could do. And that's the gospel truth. Thank God, thank God, thank God.
That's the gospel truth.
Thank God, thank God, thank God.
Oh, it's the gospel truth.
Thank God, thank God, thank God.
Oh, it's the gospel truth.
Thank God, thank God, thank God.
Gospel truth de Brandon Heath sur Phare FM, il est 4h49. C'est la radio Autrement qui vous accompagne. On est mardi, on est le 26 mai. Bienvenue si vous venez de rejoindre la nuit Autrement. On est encore ensemble pendant un peu moins de 10 minutes. Je vous souhaite un bon réveil et une excellente journée. Petite citation, allez, pour bien démarrer votre journée, c'est Ralph Waldo Emerson qui a dit ceci. Pour chaque minute où vous êtes en colère, vous perdez 60 secondes de bonheur. Merci de rester avec Phare FM. On poursuit en musique avec Mathieu Brouillet. Malala, à tout à l'heure.
Sensible à ta voix et à ton rima. Loué, entendez mon ganja. C'est dans ces moments que mon cœur se sent vivant, ou plutôt que mon cœur a l'illusion d'être présent. Si c'est ça la vie, j'en veux pas. J'ai besoin de remplir ce vide qui ne cesse de grandir en moi. Que du vent, si tout ça c'est dans ma tête que je suis dément, si l'aspect que j'ai ne vient que de mon talent, ou que derrière il y a quelque chose de plus grand. Dis-moi pourquoi, dis-moi tu t'es donné pour moi, dis-moi si tu es là, donne-moi tout ce que je n'ai pas.
Femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
La solution à la pornographie, c'est notre thématique du jour. Ensuite, on va travailler sur le off. Il faut commencer à couper les vivres au monstre qu'est la pornographie.
En fait, le off, c'est qu'est-ce que je vais faire pour m'éloigner de la zone de tentation. Ça peut être, par exemple, je débranche mon ordinateur, je ne me mets pas dans une situation où je sais que ça va être dangereux, je m'éloigne de cette situation,
oui,
c'est le off. Je me retrouve pas seul pendant de nombreuses heures dans une voiture tout seul avec quelqu'un du sexe opposé, par exemple, si je sais que ça peut me tenter avec la personne. Mais si on s'arrête au off, ça suffit jamais.
Paul, dans la Bible, quand il donne des conseils, il dit arrêtez de faire ça, mais à la place, faites ça. Il y a le off et il y a le on.
Tant qu'on maintient, par exemple, comme un ballon sous l'eau, c'est le off. Le ballon va rester sous l'eau tant qu'on a de l'énergie pour le maintenir. Et des fois, on peut être dans une situation tellement de découragement ou tellement d'excitation, on a une grande victoire dans quelque chose, que bien notre chair, elle est limitée. Et quand on n'arrive plus à maintenir, eh bien, ça jaillit et on se retrouve piégé. Donc le on, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour répondre à un besoin qui est normal, mais y répondre d'une manière qui soit saine et qui ne m'emmène pas à pécher. Parce qu'en fait, c'est ça le piège du diable. C'est qu'il nous ment, il nous fait croire que le besoin n'est pas bon en soi. Si, le besoin de la sexualité, il est bon en soi, il est voulu par Dieu. Mais c'est comment je vais y répondre qui peut constituer un péché. Alors le on, ça peut être plein de choses. Qu'est-ce qui va répondre à ce besoin? Par exemple, si je suis musicien, eh bien, je peux prendre mon instrument de musique et puis jouer de la musique et louer Dieu. Je peux passer un temps dans la prière et évidemment inviter Dieu à venir dans mon combat, et ça, je vous le recommande à chaque fois. Je peux, au niveau physique, par exemple, messieurs, quand vous travaillez vos pectoraux et vos épaules, c'est-à-dire en faisant des pompes ou des tractions, eh bien, cela relâche des hormones dans notre corps qui vont être de nature à compenser l'urgence sexuelle. Donc, ça va canaliser physiquement l'énergie sexuelle d'une manière qui soit saine. Quand vous serez fatigué d'avoir fait des pompes et des tractions, la plupart du temps, l'urgence sexuelle sera disparue.
Chez les filles, la façon de canaliser au niveau physique, l'aérobic, la danse, toutes les expressions corporelles comme ça, la louange, vont aussi canaliser l'énergie sexuelle en énergie physique. On tourne off toutes les sources qui risquent de nous piéger, mais on n'oublie pas de remplacer par quelque chose de beau.
Dernière chose, très rapidement, il y a un effet tunnel. Quand on pense à la pornographie, j'ai besoin de mon fixe de pornographie, on oublie, comme les murs d'un tunnel, toutes les conséquences terribles que ça aura dans la vie concrète, parce que ça en aura. Et donc, pour essayer de briser cet effet tunnel, si vous êtes seul dans une pièce, parlez-vous à haute voix. Dites, mais Eric, est-ce que c'est ce que tu veux? Pense, tu vas devoir le dire à Rachel. Pense à tes enfants, à ta vie. Ça va vous aider à briser l'effet tunnel. Et une dernière chose, ne luttez pas seul. Ayez un partenaire de redevabilité à qui vous pouvez appeler quand vous avez un problème de tentation. Essayez d'avoir un groupe de parole. Moi, j'encourage vraiment les hommes dans les églises et les femmes aussi à avoir des groupes de parole qui soient safe, qui soient sécurisés, où on puisse dire, ben voilà, j'ai un problème avec ça, je veux pas être jugé. Parce que si on a peur d'être jugé, on gardera le silence ou bien même on mentira sur le problème. Que l'église soit un lieu de sécurité où on puisse dire, dans des groupes déterminés pour cela, j'ai besoin de prier avec vous. Puis il y a des programmes qu'on peut mettre sur son ordinateur aussi qui nous aideront dans cette dimension.
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
4h58, la radio Autrement qui vous accompagne, et la nuit Autrement qui prend fin. C'est dans quelques minutes que vous allez retrouver Bonjour chez vous. Pour ma part, je reviens cette nuit à minuit. On écoute Need to Breathe, Who I Am. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de rester avec Phare FM. À bientôt.
White lies and desperation, hard times. In conversations, no one should ever love me like you do. Sometimes my bad decisions define my false suspicions. No one should ever love me like you do. While I'm on this road, you take my hand somehow. You really love who I really am. I push you away, still you won't let go. You grow your roses on my barren soul.
Who am I, who am I, who am I
to be loved by you?
Who am I, who am I, who am I
to be loved? Confidence was shaking, my wounds and my past was saying, no one should ever love me like you do. While I'm